Chaque jeudi, vous avez rendez-vous avec la semaine des rédactions. Le principe est simple, vous le connaissez. On fait le tour de l'actualité de la semaine avec les moments forts des différentes radios juives et partenaires à Marseille, à Jérusalem et à Paris. Avec vous, Sandrine Seban, on va revenir à Sandrine Seban, donc directrice évidemment de l'antenne de RCJ. On viendra sur l'intervention du grand rabbin de France hier, Chaim Korsia, sur notre antenne concernant la mort de Jérémy Cohen.
Tout à fait. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Une intervention très attendue, très commentée également sur les réseaux, très reprise à la fois dans la communauté et hors communauté, on en parlera dans un instant.
Avec vous Emmanuel Ada à Jérusalem, on reviendra sur l'aide humanitaire israélienne en Ukraine.
Oui, bonjour à tous et plus particulièrement sur l'alia des juifs ukrainiens qui nous pose un petit problème, on en parlera ensemble tout à l'heure.
Et puis enfin on parlera recherche avec vous Isabelle Piras, à direction de l'hôpital de la Timone à Marseille.
Bonjour Rudy, bonjour à tous et nous allons découvrir un pôle novateur et unique en France, c'est la réunion des laboratoires de biologie à la Timone. On évoquera le sujet donc en fin d'émission.
Voilà, on commence avec vous Sandrine Seban avec cette intervention donc du grand rabbin de France. C'était sur notre antenne hier une intervention, on l'a dit, très commentée.
Une intervention évidemment à propos de Jérémy Cohen. On ne va pas vous faire un rappel des faits, même si vous les connaissez, ce jeune homme qui a été tabassé par une bande de voyous, de crapules, le terme est encore un peu faible, qui a plus d'une dizaine contre lui se sont acharnés et Jérémy s'est relevé, il était groggy, il était KO, il n'a pas vu le tramway qui arrivait et qui l'a percuté et Jérémy est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital. Ce qu'on sait aujourd'hui, et il est important par les temps qui courent et après ce que nous avons vécu, aussi bien la communauté juive que la France dans son ensemble depuis ces dernières années, il est important de s'attacher aux faits et pour l'instant rien qu'aux faits. Les faits tels que nous les connaissons, c'est cela, c'est ce que je viens de vous dire. Est-ce qu'il s'agit d'une agression antisémite ou pas? Nous ne le savons pas. Est-ce qu'il y a eu bon nombre d'agressions antisémites par le passé qui avaient démarré comme cela? La réponse est oui. Est-ce que pour autant nous devons, avant même que l'enquête ne soit conclue, avant même que les policiers n'aient pu travailler puisque cette vidéo, la fameuse vidéo absolument ignoble et terrible qui a circulé, n'était pas connu avant de la police, est-ce qu'il faut anticiper les résultats de l'enquête? En ce qui nous concerne, nous disons non. Nous disons qu'il faut laisser la police faire son travail, même s'il y a eu apparemment clairement et nettement des dysfonctionnements au début dans l'enquête. C'est pour cela que l'IGPN a également été appelé. Il faut laisser la justice faire son travail et dire que c'est un acte antisémite avant que cela ne soit prouvé. C'est extrêmement dangereux, à la fois pour, évidemment pour ceux qui attendent de le savoir, à la fois pour la famille et bien évidemment pour la France tout entière dans les jours que nous vivons. Et même s'il n'y avait pas une campagne présidentielle et un premier tour dans 3 jours, nous dirions la même chose. Ce qu'a démontré cette vidéo que vous êtes beaucoup à avoir vue, il faut bien le dire que la famille ne voulait absolument pas que cette vidéo sorte, une vidéo qui a été sortie par un candidat à la présidentielle qui depuis a passé son temps à tweeter et à exploiter la douleur de cette famille. Cette vidéo, elle démontre à minima que nous sommes dans une société où on peut filmer un jeune homme qui se fait massacrer, qui se fait lyncher et que personne ne réagit. Personne ne réagit dans la rue. La personne qui filme sans qu'il n'y ait de mots de désapprobation ou quoi que ce soit. La personne ne va pas amener immédiatement ou transférer cette vidéo à la police. Voilà cette société dans laquelle nous sommes aujourd'hui en France. Je ne sais plus si c'était Paul Amar, je crois sur notre antenne, qui parlait d'orange mécanique. Eh bien, c'est cela. Si c'est antisémite en plus, cela sera prouvé. Faites confiance, comme ça a été le cas à chaque fois, aussi bien à nous, journalistes, qu'aux responsables communautaires, qu'à la police et à la justice française, et également aux différents ministres intervenants, parce que j'ai envie de vous dire, et je suis un petit peu en colère ce matin, si on ne fait plus confiance aux instances de notre pays, eh bien se dire qu'il y a vraiment quelque chose de pourri dans le royaume de France, et dans ce cas-là, eh bien on en tire ses conclusions. Mais il faut impérativement continuer de faire confiance en la police, en la justice. Le procureur a fait une conférence de presse où il a été extrêmement clair, extrêmement long. On va évidemment suivre cette affaire au jour le jour, mais j'ai envie de dire par respect pour la famille, par respect pour tous ceux qui vivent l'antisémitisme au quotidien dans ces cités et ailleurs, il faut impérativement que la lumière soit faite, mais de grâce, n'allons pas plus vite que l'enquête. C'est ce qu'a dit aussi le grand rabbin de France, Chaim Korsia, sur notre antenne. Une interview qui circule beaucoup, beaucoup. On est à plus de 35-40 000 vues, hein, sur les réseaux sociaux, parce que le grand rabbin de France, lui aussi, a eu ce qu'on appelle une saine colère, et je vous propose de l'écouter.
Et moi, je déplore l'utilisation à la fois de la souffrance de cette famille, l'utilisation du martyre de ce jeune, et l'utilisation, au fond, d'une sorte de non-respect, une façon, sans aucune vergogne, d'utiliser la souffrance des uns des autres dans un but clairement électoraliste. Mais ce n'est pas mon style de rencontrer les familles et de prendre une photo avec les familles pour dire « j'ai vu les familles ». C'est tellement pas mon style, c'est tellement, pardon, minable, que même l'idée ne m'en est jamais venue. Et même si je les voyais, là, comme j'ai vu d'autres familles, jamais j'ai utilisé la souffrance des autres pour dire « voilà, je suis avec eux ». Je suis porté, j'essaye en tout cas, d'être porté par un psaume magnifique qui dit « Immo anochi betzara ». Avec lui, je suis dans la souffrance. Okay. Je dis des choses, je dis des choses et me concernant. Quoi ? Parce que quand mon fils s'est fait agresser, mon propre fils s'est fait agresser dans un tramway. Il est entouré par 10 jeunes. Moi, j'ai considéré que c'est 10 voyous. Il n'y avait rien de simite, ils en avaient probablement ses AirPods. Donc la réalité, je la connais, je la vis comme tout le monde. Et nous les vivons tous, les dirigeants communautaires connaissent la situation française. On n'est pas dans un monde ailleurs. Je passe ma vie à aller, ce matin j'étais à Créteil, la semaine dernière j'étais à Sarcelles, je vais dans toutes les communautés de France et d'Île-de-France.
Donc Raïm Korsiel, grand rabbin de France sur notre antenne, et je voulais juste rajouter rapidement un mot, Rudy, parce qu'il y a une petite musique comme ça sur les réseaux sociaux qui commence à m'agacer prodigieusement et qui n'est pas juste, et qui parle notamment, certains, des dirigeants communautaires pour qui ils seraient vendus, entre guillemets, je reprends les termes qui sont utilisés, qui sont très graves, vendus au gouvernement, vendus à Macron, des dirigeants communautaires qui ne seraient là que pour la photo, des dirigeants communautaires qui ne seraient là que pour aller dîner dans les cocktails. À un moment donné, il faut dire stop. Ces dirigeants communautaires sont des gens qui sont bénévoles, qui sacrifient souvent leur propre vie de famille, qui sacrifient leur travail pour pouvoir être là. Le président du Fonds social est bénévole, le président du Consistoire est bénévole, le président du CRIF est bénévole. Il faut arrêter, parce que ça fait des années qu'ils sacrifient beaucoup de choses. Et qu'ils sacrifient aussi leur propre sécurité, parce que ce sont des gens, il faut bien le dire, qui sont sous protection policière. Et tout ça, pourquoi ? Pas pour aller faire une photo avec Macron, mais pour que cette communauté juive de France puisse vivre et puisse être protégée. Donc à un moment, je dis stop, et je dis à tous les gens qui, sur les réseaux, disent ceci ou cela sur les dirigeants communautaires, vous savez quoi ? Nous sommes une communauté démocratique. Nous sommes une communauté où il y a des élections dans toutes ces grandes institutions. Venez, venez, parce qu'on manque de relève, on manque de jeunes, on manque de femmes, on manque de gens qui prendront notre relève dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et je trouve que c'est assez ingrat, parfois, pas tous, mais par rapport à ces dirigeants qui, je peux vous le dire, ne tirent pas grand-chose hein, de toutes ces emmerdes, excusez-moi l'expression, mais qui le font par amour pour la communauté et qui en échange parfois, je dis bien parfois, et certains le rendent un petit peu mal.
Voilà, scène colère donc de Sandrine Seban également. Emmanuel Adin, un petit mot là-dessus ?
Écoutez, je ne peux qu'appuyer les propos de Sandrine. Ceci dit, je suis un petit peu, j'ai envie de dire que c'est un petit peu le jeu de la politique et des élections et que tout le monde en profite. On le voit bien, les politiciens n'ont aucune limite, n'ont aucune, comment on peut dire ça ?
Décence ?
Ils n'ont aucune décence, tout est bon pour gagner des voix. Donc ça, c'est clair, on le sait, on n'est pas naïf. J'étais un petit peu surprise quand même dans les propos du rabbin Raïm Korsiel, que je n'ai pas entendu en entier malheureusement, mais je le ferai. C'est pourquoi il se compare aux politiciens ? Pourquoi il dit « moi, je ne fais pas de photos avec les familles, etc. » Ce n'est pas du tout son rôle. Heureusement que lui ne le fait pas et on a beaucoup de respect pour lui justement, parce que sa position n'est pas de faire des photos avec les familles qui sont touchées par le terrorisme ou qui sont touchées par les attentats ou l'antisémitisme. Donc, j'étais un petit peu surprise lorsqu'il a dit ça, mais j'ai compris aussi sa colère et on le sent dans sa façon de parler, on sent qu'il est excédé de la réaction de la communauté, des gens, le populisme, beaucoup de populisme. Mmh.
C'est exactement ça, c'est le bon mot, Emmanuel.
Mmh. Isabelle Piras, une réaction ?
Alors, je vais vous rejoindre, Sandrine, sur votre coup de gueule. Alors, c'est vrai qu'on ne peut que déplorer en fait cette récupération politique électoraliste, hein, c'est insupportable. Et je sais que Raïm Korsiel l'évoquait sur vos ondes, hein, c'est l'utilisation de la souffrance de la famille. Et ce qui est terrible aussi, c'est que cet incident, au début, est presque passé inaperçu. Il a été classé comme un accident de la circulation. Et c'est la famille qui a mené l'enquête. Et là où je vais vous rejoindre, c'est que malgré tout, il faut faire confiance en la justice.
Voilà, on se retourne vers Israël. On va parler d'Ukraine et d'aide israélienne à l'Ukraine et aussi des réfugiés qui arrivent en Israël.
Oui, en fait, on a un petit souci aujourd'hui en Israël, quelque chose qui nous tracasse et je voulais vous en faire part. C'est que les réfugiés ukrainiens qui souhaitent monter en Israël pour s'y installer, hein, pour se sauver, sauver leur propre vie, eh ben, sont de moins en moins nombreux à vouloir venir en Israël. Et c'est pourquoi la ministre de l'Alia, Pnina Tamanoshete, s'est rendue hier à la frontière de l'Ukraine, à la frontière avec la Pologne, pour rencontrer des réfugiés, pour les motiver, pour les solliciter, pour leur dire combien c'est important qu'ils acceptent de monter vivre en Israël. Et puis aussi, elle s'est rendue à l'hôpital de campagne installé par l'État d'Israël, hein, cet hôpital magnifique qui s'appelle Kochav Meir, du nom de Golda Meir, qui est née en Ukraine elle-même. Elle a rencontré les médecins sur place, etc. Ils ont essayé, avec toutes les associations présentes, le Keren Hayesod, etc., ils ont essayé de motiver ces réfugiés ukrainiens qui ne demandent pas à venir en Israël aujourd'hui. Alors, très bizarrement, ils préfèrent partir en Allemagne, ils préfèrent partir peut-être en France aussi. Peut-être que les aides sont bien plus intéressantes. Il faudrait comparer les aides proposées par les différents pays d'accueil. En tout cas, nous, on sait qu'en Israël, le budget promis par le gouvernement pour l'aide aux réfugiés ukrainiens n'a pas encore été débloqué. Et la ministre de l'Alia l'a fait savoir, elle l'a dit à maintes reprises. Elle a lancé des pics systématiquement pour rappeler que ce budget n'était toujours pas là. Et peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles, vous savez, les Ukrainiens, même s'ils sont dans une situation terrible, ils communiquent entre eux, ils ont de la famille en Israël, ils savent à quel point c'est difficile la vie ici, ils savent à quel point la vie est chère, ils savent que les budgets ne sont pas débloqués et ils se posent des questions quant à leur avenir et leur intégration dans le pays. Et c'est un sujet qui nous tracasse beaucoup, je ne vais pas vous mentir, on est très soucieux parce que le but même, enfin pas le but, mais disons qu'un des fondements de l'État d'Israël, c'est le pays refuge. Vous êtes d'accord avec moi ?
Ok, oui.
On en reparlera dans deux semaines.
On en reparlera. excellente vanne de Rudy, ça, là.
Pourquoi dans deux semaines, Rudy,
Je vous comprendrez.
Comme ça, on va attendre le résultat des élections présidentielles et on espère pouvoir avoir le choix de rester encore en France ou de partir en Israël. C'est ça l'important, c'est d'aller en Israël si vous en avez vraiment envie et pas malheureusement comme doivent le faire là, les réfugiés ukrainiens par... voilà.
Un mot sur ce que disait Emmanuel, Sandrine Seban.
Oui, non, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on est dans une situation... là, on n'a pas parlé de la politique en Israël, mais alors chez eux aussi, on va dire que tout est extrêmement vacillant, chaud. Et on est, on est dans une situation aussi très, très compliquée, hein, là-bas chez vous.
Assez instable. On en parlera, je pense, dans votre correspondance demain matin, Emmanuel. On va prendre la direction de Marseille et de l'hôpital de la Timone avec vous, Isabelle Piras.
Nous allons changer complètement de sujet. Je vous emmène à la découverte du biogénopole. Alors, c'est vrai que ça fait un nom un peu barbare hein, quand on le prononce comme ça. C'est un nom qui a été créé exprès pour cet espace car il est dédié à la biologie et à la génétique. Ce centre, il atteint un haut degré de robotisation et quand on rentre dans le bâtiment, hein, on entend un bruit des machines, c'est limite assourdissant. C'est une nouvelle ère, une nouvelle conception de ce que doit être la biologie aujourd'hui dans les grands hôpitaux. Alors ce pôle, c'est une avancée majeure, il permettra de recevoir plus rapidement les résultats pour les patients. Les délais aux urgences pourront être raccourcis, jusqu'à 8000 prélèvements par jour pourront être analysés. Alors cet espace, il fait partie, il faut savoir chez nous, d'un plan de rénovation de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille qui s'élève quand même 1 milliard d'euros. Alors, c'est un pôle, vous l'avez compris, ultra moderne, plus de 11 000 mètres carrés. Il ouvrira complètement en 2023. Je vous propose que l'on fasse ces découvertes ensemble avec le professeur Lacarel de la Timone.
Pour suivre le cheminement d'un tube, pouvons partir d'un prélèvement qui se réalisait par exemple à la maternité, l'hôpital de la Conception. Ce prélèvement va être mis dans un tube dit pneumatique. Ce pneumatique emprunte en fait les couloirs du métro et ceci va permettre à ce tube d'arriver à l'hôpital de la Timone, donc au sein de Biogénopole, en 3 minutes à peu près, directement dans le laboratoire. À partir de là, tout est enregistré, tout est vérifié et tout va partir dans un système qui est entièrement automatisé grâce à des sortes de tapis roulants, de petits ascenseurs miniatures, de bras robotisés. Tous les tubes vont être manipulés par cette chaîne automatisée qui va assurer toutes les étapes, par exemple, de centrifugation et ensuite de distribution du tube aux différents automates, puisque nous avons des automates dédiés pour l'hématologie, pour la biochimie, etc. Tout ceci va être automatisé jusqu'à la fin et tout ceci est évidemment géré par un système informatique très sophistiqué qui va nous permettre de faire remonter directement les résultats dans le dossier du patient. Le résultat sera donc automatiquement consultable par les médecins qui sont en charge du patient.
Alors le pôle, donc vous l'avez compris, ouvrira en 2023. Une partie est déjà visitée, donc et puis une partie surtout est déjà ouverte en ce moment même. Et Ferra, pendant cette période Covid, les travaux tiennent leur délai. Il n'y a pas eu de retard dans la livraison.
Eh bien voilà. Bon bah c'est rassurant si on vient vous voir à Marseille, alors Isabelle.
Non mais l'hôpital qui se modernise, c'est quand même quelque chose d'important. Il faut aussi le souligner.
Oui, mais je ne vous souhaite quand même pas de venir à Marseille visiter
l'hôpital. Non, c'est clair. Il y a quand même autre chose.
On préfère voir
autre
chose.
Oui, c'est un peu mieux quand même.
Mais c'est vrai que c'est important et qu'on est, voilà, beaucoup. Il y a beaucoup de remontées ces derniers mois sur les hôpitaux surchargés, débordés, effectivement, et les moyens insuffisants donnés aux hôpitaux. C'est bien aussi de voir qu'il y a des choses qui avancent, et tant mieux.
Emmanuel Ada, un mot de conclusion?
Marseille, j'adore cette ville.
Merci beaucoup.
On conclut bien. Bah voilà.
Bien. Merci Isabelle Piras, merci à vous Emmanuel Adaï, merci Sandrine Seban.
Et allez voter dimanche.
Et allez voter dimanche. D'ailleurs, demain, on parlera dans la matinale de Margot Siffert de comment faire une procuration.
Ah
c'est
oui.
Très, très, très simple. Donc, évidemment, allez voter dimanche et il n'y a pas d'excuse pour ne pas aller
non,
voter.
Ça, c'est clair.
Voilà, c'est la fin de cette semaine des rédactions. Mais par contre, RCJ Midi continue dans un instant vos chroniques et puis un point sur l'actu.